Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à chacun. Voilà. Je voudrais encourager mes frères qui jouent de la musique. Et les sœurs, éventuellement, quand elles sont là. Et je pense que le Seigneur bénit. Ça fait du bien, les chants, l'expression, parce qu'elles glorifient, en effet, Jésus. Et c'est vrai, je crois que de temps en temps, eh bien, nous avons besoin les uns et les autres d'être encouragés. C'est ce que nous avons chanté, hein. Quand on n'a plus de courage et qu'il y a des nuages, alors j'ai besoin de toi. Voilà. Et je voudrais vous encourager les uns et les autres qui ouvrez la bouche dans la louange et dans l'adoration, là aussi. Hein, c'est vrai que nous faisons tous des expériences diverses, de différentes natures d'ailleurs, des heureuses et puis des moins heureuses. Et je crois que dans tout cela, eh bien, c'est bien le dimanche matin de pouvoir nous retrouver ensemble et de pouvoir finalement eh bien, apporter tout cela devant Dieu. Le culte, ce n'est pas une réunion de prière, hein. Une réunion d'adoration, de louange, mais je pense que c'est d'autant plus beau lorsque nous avons eu des semaines difficiles et de pouvoir dire merci Seigneur.
Amen.
Ouais, merci Seigneur. Alors, ce matin, ça sera peut-être un peu inédit mon propos, mais je pense que c'est important parce que c'est un sujet dont on ne parle pas très très souvent. Donc vous allez comprendre hein, de quoi il s'agit. Moi, je cite tout simplement de mémoire hein, que Jésus nous laisse une parole dans l'évangile de Jean. Et Jésus, écoutez bien, il nous dit ceci, « Mes brebis entendent ma voix parce qu'elles ne connaissent pas, parce qu'elles me connaissent, pardon, excusez-moi, je rectifie, parce qu'elles me connaissent et elles me suivent précisément parce qu'elles me connaissent, parce qu'elles connaissent ma voix. » Et à ce moment-là, eh bien, nous nous apercevons que les brebis dont Jésus parle ne vont faire aucune difficulté pour le suivre. Sans problème. Ça va être véritablement eh bien, le bon berger, vous connaissez naturellement. Et Jésus précise un petit peu plus loin, il dira, mais elles ne suivront pas un étranger. Eh oui, c'est un inconnu, on ne connaît pas, on ne sait pas. Et je crois que je voudrais souligner une chose, c'est la connaissance. Ou si vous aimez mieux, la reconnaissance qui interpelle, parce que reconnaître, ça demande du discernement. Eh oui, naturellement. Une connaissance d'abord, et on a confiance, et puis une reconnaissance que finalement, eh bien, on entre de bonnes mains dans celle du bon berger. Et je crois que c'est ça ce que je voudrais vous dire. Ça, c'est pas le propos, hein. C'est simplement une introduction de ce que Jésus nous dit, voilà. Elles me suivent parce qu'elles me connaissent, tout simplement. Donc, on va évoquer trois aspects des choses. Le bon berger, je vais pas trop rentrer dans le détail, parce que bon, nous avons une formidable parabole, et vous la connaissez parfaitement. Et puis, il y a le vrai berger, et il y a aussi les faux bergers. Et c'est précisément, justement, sur cet aspect de cet état de berger que je voudrais finalement eh bien, donner un rappel peut-être, certainement. Et pour cela, j'ai bien dit, hein, il y a véritablement eh bien, un discernement nécessaire. Et nous allons donc compléter cette introduction, comme ça de passage, dans Éphésiens, et vous allez comprendre tout de suite à quoi je veux en venir dans ces propos. Dans Éphésiens chapitre 4 et à travers le verset 11 par exemple, à partir du verset 11. Et vous allez voir qu'il y a le bon berger, qu'il y a les vrais bergers. Alors je ne veux pas trop m'étendre sur les faux bergers. Le Nouveau Testament est rempli d'exhortations de vigilance, de prudence sous la plume de l'apôtre Paul. Il nous en parle suffisamment, alors on devrait le savoir hein, de toute manière. Mais il y a beaucoup de subtilités, vous allez voir. Alors, on va s'intéresser au vrai berger, celui qui suit le bon berger. Alors, j'ai bien dit Éphésiens, chapitre 4, et verset 11. Jésus, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour, il y a une raison, hein, pour le perfectionnement des saints, des chrétiens, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ, c'est-à-dire l'Église. Jusqu'à ce que nous soyons, nous, les uns et les autres, à travers tous les temps, dans l'espace, eh bien, que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Voilà pour cette situation. Moi, j'ai voulu commencer par Jésus parce qu'il est par excellence le parfait. Et c'est à lui que nous devons finalement eh bien, nous en référer. Enfin bon, c'est lui qui nous a fait naître. C'est lui qui nous a donné de naître de nouveau, de prendre conscience en ouvrant notre esprit à la compréhension de sa parole. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas tout simplement, nous ne sommes pas sauvés, il ne nous a pas sauvés uniquement pour que nous jouissions de ses bénédictions et de sa grâce, mais pour le servir, parce que c'est un texte de service. On est bien d'accord. Et un texte d'accroissement de notre vie personnelle et de notre vie en commun. À chacun, et puis également pour tous, naturellement. Alors, c'est ce que l'on appelle les ministères dons. Vous avez remarqué, il y en a 5. 4, si vous voulez, entre le pasteur et le docteur. On en reparlera d'ici un instant. Et j'aimerais justement rappeler ces informations qui nous sont données, parce que on ne sait pas toujours faire la différence dans tout ça. C'est un texte que l'on lit, sous la plume de l'apôtre Paul, mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne font pas les nuances, parce que bon, ce sont des ministères dons, et vous remarquerez, ils sont tous marqués par la parole. Prédication de la parole, dire la parole de Dieu. Et la dire naturellement, eh bien, puisque Jésus nous parle de sa voix, et nous devons reproduire la voix de Jésus. La voix avec un X. Hein. Maintenant, ça nous permet de suivre le voix avec un E, naturellement. D'ailleurs, on l'appelait la voix du Seigneur quand il s'agit de le suivre. Mais là, il s'agit de la voix, donc des ministères, dont, on l'a bien lu tout à l'heure, Dieu, il nous a donné. Hein, c'est bien le texte que j'avais sous les yeux tout à l'heure. Il a donné les uns comme ceci, cela, etc. Alors, il y a des nuances, naturellement. Et nous pouvons dire que c'est Christ, et je voudrais le rappeler formellement ce matin. On n'est pas venu, ils ne sont pas venus comme ça par hasard en disant, bah, tiens, je me sens que, voilà. Non, non, c'est Christ qui les a donnés. Ils ont été appelés par le Seigneur. Pas d'improvisation et pas de sentiment qui pourrait nous dire, voilà, je me sens avec un petit talent ou avec quelques, je ne sais pas, à l'intérieur de moi-même, ça me ferait bien plaisir de pouvoir, eh bien, la exprimer. Attendez, c'est pas fini. Hein. Nous avons été mis à part, donc sanctifiés, mis à part. Un saint, c'est pas celui que nous serons de l'autre côté, parce que bon, on est dans un monde d'imperfection. Mais un saint, c'est celui qui était appelé à être mis à part. C'est pas pour ça que c'est un emprisonnement et quelque chose qui finalement ferait de nous, eh bien, une secte, hein, en tous les cas. Mis à part, nous avons été établis, parce qu'il y a une formation. Parce qu'il y a là un travail avant de devenir, eh bien, dans ce que le Seigneur a préparé pour chacun d'entre nous, ça nous concerne les uns et les autres. Et nous avons été ensuite, lorsque ce chemin, étape par étape, nous avons été reconnus. Dieu nous reconnaît, mais c'est aussi l'Église qui nous reconnaît. Ouais. Et nous avons été reconnus, et après avoir été reconnus, nous avons été envoyés. Alors, on ne grille pas les étapes. Ça, je parle des ministères dons dans la généralité des 5. Hein. Et nous apercevons que, vous l'avez lu dans votre Bible, c'est que nous avons des appellations pour ces ministères. On les appelle tout simplement les ministères de Christ. On les appelle des serviteurs. Voilà, on est au service, on n'oublie pas ça. Hein. Et nous sommes des compagnons d'œuvre, les uns et les autres. Paul le dit avec beaucoup de, hein, beaucoup de force, hein, compagnon d'œuvre, ce qui suppose l'unité. Nous sommes des ouvriers. On dira peut-être même nous sommes des hommes de Dieu. Ces mystères sont des hommes de Dieu. On pourra peut-être dire par extension, et on rentrera peut-être non plus dans les ministères d'hommes, mais un petit peu les ministères d'assistance, eh bien là, des dispensateurs. Parce que nous avons un combat à mener, nous sommes des soldats de Christ. Voilà. Et c'est bien pour ça que dans les Éphésiens, il nous a donné tout le chapitre 6 pour nous dire, attendez, hein, n'oubliez pas le casque, n'oubliez pas le bouclier, etc., etc., parce que vous êtes dans un combat, et ce n'est pas n'importe quoi. Et naturellement, nous sommes des bergers. Voilà. Le ministère don est un berger. La tâche principale de ces ministères don, c'est d'annoncer la parole. C'est pour ça que je vous ai dit, ce sont des ministères de la parole. Il y a certainement d'autres expressions dans les services choisis par Dieu de certains hommes, mais là, c'est la parole, que ce soit l'un, que ce soit l'autre, dans les cinq qui ont été nommés. Et nous sommes aussi dans les fonctions de ce que Dieu nous a donné de prendre conscience et de pouvoir mettre en œuvre. Nous sommes là également pour énoncer la doctrine de Christ, ma voix, ma pensée, la doctrine de Christ. Et cela nous amène à l'enseignement, cela nous amène à l'affermissant de ceux qui entendent la parole. Vous savez, tout ça, ce sont les verts pâturages, hein, qui nous sont donnés dans le psaume 23. Hein, les eaux limpides et puis les verts pâturages. Ils ont aussi une mission à remplir, ces ministères dons, c'est de combattre les hérésies. Et Dieu sait s'il y en a. À travers tous les temps, on les trouve dès le début. Finalement, les premières pages du Nouveau Testament, ça existait déjà dans l'Ancien Testament. Hein. Les faux docteurs, les faux prophètes, enfin, etc., etc. Réfuter l'hérésie. Mais pour réfuter l'hérésie, il faut véritablement être ancré dans ce que Dieu nous a dit. Hein, parce qu'autrement, on peut partir à tout vent de doctrine, comme cela est dit. Hein. Et puis, il y a un côté, un aspect moral de ces hommes qui ont été choisis, appelés. C'est tout simplement, eh bien là, un modèle du troupeau. On reste toujours dans la physionomie, dans la pensée d'un troupeau. Alors, on va commencer par le premier. C'est intéressant. Quelle idée vous pouvez avoir d'un prophète? Ah. Ou quelle idée pouvez-vous avoir? On va commencer par celui-ci. Eh bien, tout simplement d'un apôtre. Apostolos, en grec. Et je dirais, si vous voulez qu'on synthétise, c'est un pionnier. Et c'est un ambassadeur, il est au service d'un roi, et il est là pour tout simplement annoncer le royaume auquel il fait partie. Et vous savez, un ambassadeur, c'est celui qui va représenter. Voilà. Et il y a eu, ils ont été envoyés. Dans le tout début, quand Jésus est apparu, il nous a dit qu'il choisit ses 12 apôtres. Hein? Après une nuit de prière, naturellement, enfin bon, je le mets tout simplement supplément, il y a les premiers apôtres, c'est-à-dire les 12, qui vont être, ils vont avoir une mission particulière, c'est de suivre Jésus, d'écouter Jésus, d'imiter Jésus, et d'écrire la vie de Jésus à travers ce que nous connaissons, hein, ce qui nous est rapporté dans les évangiles, bien que Marc et Luc, c'était un peu particulier, mais ils parlent au nom d'apôtres qui ne se font pas connaître, mais ils vont parler de la vie de Jésus. Donc, c'est les 12, hein. Ceux-là ont une mission, naturellement. Et puis, il y a naturellement Paul. Paul, qui lui, n'a pas vu Jésus. Il ne faisait pas partie des 12. Mais il va recevoir comme une révélation à un moment donné. Et c'est bien parce qu'il y a tout un enseignement derrière. Les 12 disciples premiers. Et puis ensuite, eh bien, l'apôtre Paul. Alors, la Bible nous en parle. Il y en a quelques-uns. Barnabas, c'est un apôtre. Il y a également Andronicus. On n'entend pas trop parler, mais bon, il était remarqué naturellement et son nom est signalé. Il y a Junias également. Et le but de cette seconde série après les 12, je parle de ces les noms, là, les trois derniers noms, ça a été véritablement des œuvres, ils étaient missionnés pour des œuvres d'ouverture. Et ils ont ces hommes qui ont bouleversé le monde à travers les premiers siècles et puis encore aujourd'hui. Et peut-être, nous pourrions peut-être rapprocher cela d'un missionnaire aujourd'hui qui part dans un pays qui n'a jamais été atteint par le christianisme et ils vont faire une œuvre que de sacrifice, que de sang, que de peine. On a des récits dans nos bibliothèques chrétiennes où, par exemple la Chine, et puis d'autres qui ont été dans des milieux véritablement excessivement hostile, comme aujourd'hui il y en a encore qui travaillent parmi l'islam, etc., etc., où là, jamais le nom de Christ a été apporté. Et nous voyons que le christianisme a pu se répandre dans le monde entier, à travers, vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Moi, je pense que ces gens-là sont des apôtres. Quelle consécration et quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire le défrichement. Nous, notre mouvement s'est particulièrement cantonné en Afrique et puis en Extrême-Orient, c'est vrai. Ailleurs, naturellement, mais on a véritablement... Parce que, politiquement, il y avait des ouvertures, naturellement, et on pouvait parler la langue, enfin le français en tous les cas, pour prêcher l'Évangile. Donc, c'est le défrichement, c'est l'implantation des communautés chrétiennes, des églises, c'est poser les fondements, s'en aller ensuite et les donner à des autochtones qui vont continuer. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et ensuite, ils vont former ces gens-là. Ils vont être formés, mais ils vont former d'autres, en ouvrant peut-être même des églises, des écoles bibliques, pour que ça se multiplie. Et nous savons qu'il y en a un qui porte un nom extraordinaire. On a parlé du bon berger, mais Jésus est l'apôtre par excellence. Premier des premiers. Et si nous devons finalement nous inspirer, on regarde à Jésus. D'ailleurs, dans tous les dons qui vont apparaître devant vous maintenant, c'est Jésus qui est la pierre angulaire. Je n'invente rien, c'est lui qui l'a dit. Hein? Voilà. Donc c'est bien de savoir, parce qu'on s'aperçoit que quand on pose la question à des chrétiens, « Ah oui, bah, ce chapitre, il est formidable, on sait qu'il y a des gens qui font ceci, qui font cela, mais pour bien les situer et bien reconnaître. » Je vous dis ça parce que ça a toujours été un problème, ça a toujours été un questionnement, et nous allons rentrer probablement dans une époque où il y aura encore plus de confusion. Parce qu'il va y avoir des vrais et il va y avoir des faux. Qui est qui? Qui fait quoi? Voilà. Et est-ce que véritablement ce sont des gens qui sont fondés sur la bonne doctrine, sur ce que Jésus a enseigné? Parce qu'on peut nous raconter n'importe quoi. Donc voilà. Donc ça c'est l'apôtre. Le prophète, en grec, ça fait à peu près la même chose, prophétesse. Bon, c'est pas au féminin. Ce sont des messagers et des porte-paroles. On a bien compris, hein? Les apôtres, prophètes, messagers, porte-parole. Ils parlent au nom de qui? Ils ne parlent pas au nom d'une religion, ils ne parlent pas au niveau d'une congrégation, d'une communauté. Ils parlent au nom de Dieu. Et ça, ce n'est pas nouveau. Parce que dans l'Ancien Testament, les prophètes, il y en avait. Mais avec une mission tout à fait différente. Parce qu'il y a véritablement un bouleversement au moment où Jésus est venu. Eh oui. Et nous pouvons dire que... Pour nous qui sommes charismatiques, attention de ne pas confondre le prophète dont nous parlons maintenant, ministère don, ministère de la parole, de ne pas confondre avec le don de prophétie. Ce matin, nous avons entendu une prophétie. Mais ce n'est pas pour ça que la personne qui l'a donnée est une prophétesse. Au sens où nous l'avons là, dans cette... Ce n'est pas un ministère don, prophétie. Et les uns et les autres, moi je vous encourage, comme dans 1 Corinthiens à le faire, priez donc pour que vous puissiez avoir et exprimer le don de prophétie. Et de ne pas venir, comme nous quelquefois, ça m'est arrivé plusieurs fois dans le ministère, quelqu'un qui arrive un inconnu en disant « je suis prophète ». Alors là, je me méfie. Hein? Voilà. Parce que bon, on ne connaît pas d'où il vient, on ne sait pas ce qu'il... Exactement. Et quelquefois, ça fait des ravages terribles, parce qu'il y a de la candeur. Et comme certains d'entre nous, certains d'entre nous, je ne parle pas pour vous, hein, dans certaines communautés, ils sont tellement avides du miracle, du sensationnel, etc., toutes ces friandises, ce que j'appelle ça des friandises, tomber dans le piège, et à un moment donné, c'est d'une catastrophe dans l'Église. On l'a vécu, hein, avec quelquefois des entailles dans nos Églises. Ah ben oui, mais je l'ai suivi parce qu'il m'a dit. Ah, il m'a dit quoi? Faut savoir si c'est véritablement selon l'analogie de la foi. Si c'est véritablement en conformité avec la parole de Dieu, ou c'est un illuminé, un éclairé, ou un mal éclairé, qui quelque part sur n'importe quoi, pour entraîner les autres à sortir de la vie spirituelle et à sortir véritablement de la dépendance de Jésus-Christ. Ah, c'est le Saint-Esprit. Oui, d'accord. Est-ce qu'il est vraiment saint, ce Saint-Esprit-là? Et avec souvent des capacités humaines, hein, savoir parler, séduction et toutes sortes de choses. Donc, pas confondre avec... Don de prophétie. Ces prophètes-là n'ont pas de nouvelles révélations dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Alors c'était des hommes qui étaient saisis, subitement, brutalement, et là Dieu leur parlait pour dire au peuple. Et c'était souvent des paroles de jugement, et des paroles qui étaient assez... Puis il y en avait bien d'autres, naturellement, des messages. Mais ces prophètes-là dont nous parlons ministère d'on, ce ne sont pas des gens qui vont bouleverser finalement ce que Dieu a dit auparavant et de dire maintenant, eh bien voilà, c'est fini ces temps-là, et puis moi je vous apporte de nouvelles révélations. Ils ne dictent pas cela. Ils ne conduisent pas, ils ne dirigent pas la vie des autres. C'est là où il faut du discernement. Parce que quelquefois on se dit, Seigneur, je cherche ta volonté, mais alors, si c'est en conformité avec la parole de Dieu, et quand on n'oublie pas que ces gens-là, c'est faux, ils viennent pour diriger votre vie, pour savoir quelle couleur vous devez acheter votre prochaine voiture, et comment vous devez gérer votre argent, attention. Hein. Nous, on a traversé quelquefois des périodes dans le ministère, vraiment, ça fait mal, ça fait pleurer quand on voit que des gens sont depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans et davantage, ils se sont comportés, excusez-moi, je dis le mot parce qu'on en a pleuré de tout ça, des gogos, partir sur des trucs et des inepties, mais pas possible, il suffit de lire la parole de Dieu pour nous dire, attention, hein, c'est pas du n'importe quoi, hein. Alors on profite de tout ça, et ils ne sont pas infaillibles. Je ne veux pas trop creuser sur l'infaillibilité de certains qui se proclament infaillibles, hein, le premier d'entre eux peut-être, vous voyez ce que je veux dire. Je me dis, mais c'est pas possible, parce que là on vient dans la secte. Hein. Il y a donc les apôtres, il y a les prophètes. Parmi les prophètes, il y avait Agabus, ça c'est un vrai de vrai, dans la dispensation du Nouveau Testament. Connaissez, vous pouvez lire, il y a deux histoires sur le prophète Agabus. Il y avait Silas également, et il y a Jude. Eh oui, il est nommé également prophète. Il y a l'évangéliste. Alors là, c'est peut-être un peu plus proche de nous. L'évangéliste, c'est un ministère particulier. Et je résumerai comme ça. Il a un ministère don de Dieu, ministère de la parole, parce qu'il parle beaucoup, l'évangéliste. Hein. Il a beaucoup de choses à dire, hein. Il a beaucoup de choses à dire sur la révélation du salut de Dieu. Et sa parole est d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Il ne va pas s'emberlificoter dans toutes sortes de doctrines, dans toutes sortes de choses, même s'il les connaît. Et puis, non, c'est Jésus-Christ, tout simplement, le salut au Jésus-Christ, pour amener ses auditeurs, eh bien, tout simplement, à la foi en Christ. C'est le but, la foi en Christ. Et on a eu des évangélistes, on sait qu'ils sont évangélistes, hein, parce que je peux vous dire, ils remuent, hein, possible, hein, ils sont très là, prolixes, et puis et c'est quelque chose d'assez, c'est intéressant, mais toujours dans un but de la repentance et de la conversion à Jésus-Christ. C'est pas pour faire du monde dans une église quelconque, c'est pas pour faire rentrer les gens dans un mouvement pour dire, regardez le succès que l'on a et tout ça, c'est Jésus le but. Et ils sont très intéressants, hein, les évangéliques, hein. Mais ils ont besoin aussi d'être accompagnés. Eux. Parce que confier uniquement un évangéliste à une église, il va manquer quelque chose. Ils vont rentrer, ils vont faire rentrer du monde, beaucoup de monde, mais après il faut que les brebis elles soient nourries. Hein. On en vient à autre chose dont je vais vous parler tout à l'heure. Ils prêchent Christ. Vous vous souvenez de celui qui nous est cité comme exemple? Il n'y en a pas 36, mais il y en a beaucoup après dans le monde. Hein. Dans le livre des Actes, qui était vraiment un fameux évangéliste? Philippe? Ben oui, hein, Philippe. Pas Philippe Auguste, ne vous trompez pas. Hein, mais Philippe, hein, voilà. Et son ministère est souvent marqué par l'itinérance. Il ne reste pas dans une église, il va d'une église à une autre, etc., etc. Et il prêche Jésus. Et il ouvre. Enfin, il est à la fois un tantinet apôtre, si vous voulez. Si vous voulez, mais bon, avant tout, on le désigne comme un évangéliste. Et la chose extraordinaire qui fait quelquefois qu'on met plein les yeux, c'est qu'ils sont, accompagnés de signes et de miracles. Ils prient pour les malades, ils prient pour toutes sortes de situations dont les gens sont frappés, de douleurs, de souffrances, et voilà que les gens, par la foi, C'est un homme de grande foi, hein, l'évangéliste. Hein. D'une façon ou d'une autre, quelle est l'expression finalement de ses façons de faire, mais c'est le Saint-Esprit qui le conduit, tout ça. Et là, c'est la confirmation de son envoi par Dieu en prêchant l'évangile qui suscite la foi et qui touche les malades, qui touche les infortunés de la vie, etc. et qui voit se réaliser que Dieu est vivant. C'est très impressionnant, hein, le ministère d'évangéliste. On voudrait bien être tous évangélistes. Hein. Amen. Ouais, ben oui, mais bon, il y en a pour tous les goûts et puis il y en a pour tous les... Voilà, hein, ça c'est comme ça, il faut le dire. Hein. Alors nous en arrivons à celui que vous connaissez le plus, c'est-à-dire qui n'est pas le bon berger, mais qui est finalement, eh bien là, en quelque sorte, l'expression du ministère par excellence, ministère don, que nous avons dans nos églises aujourd'hui. Alors, c'est vrai que c'est un terme générique, et c'est même l'appellation que l'on donne à n'importe qui, enfin n'importe qui, je veux dire, n'importe qui des ministères. Hein, on ne fait pas toujours la différence, c'est le pasteur, tout simplement, poimen. En grec, hein, tout simplement. Alors, je viens de le dire, il est le berger. Il est celui qui s'exprime dans le psaume 23, qui s'exprime dans tout ce que nous pouvons considérer, eh bien, chez Jésus d'abord en priorité, puis chez Paul. Paul, il était les cinq à la fois. Hein. Ah oui, parce qu'on trouve finalement eh bien, l'expression des cinq ministères d'eau à travers la vie de Paul, et puis il y en a bien d'autres, naturellement. Donc, c'est un homme envoyé de Dieu qui prend soin de l'Église. Il prend soin de l'Église. S'il n'est pas là, s'il court de droite et de gauche, si finalement il fait autre chose que le soin, alors il y a un problème là, à ce moment-là. Et l'Église est un petit peu décapitée, il lui manque... La tête, c'est Jésus, mais quand même, il lui manque quelque chose. Il prend soin de l'Église, il prend soin des âmes, c'est-à-dire les besoins intérieurs, à travers ses soutiens, à travers la visite des malades. Il n'attend pas qu'on lui téléphone trois fois avant de venir. Et il est là pour justement soigner, hein, tout simplement. Il encourage dans l'amour. Ça, c'est quand même une tâche quand même importante. Hein. Et comme on parlait tout à l'heure par rapport aux hérésies, quelquefois, il faut revenir assez souvent, hein, parce que le troupeau, il peut quelquefois se quereller, il y a toutes sortes de choses. Il soigne, il manifeste, il encourage dans l'amour, il encourage avec sagesse. C'est pas un fou, hein. Il fait pas n'importe quoi. Il réfléchit avant de parler. Et puis quand il donne, il prend pas ça par-dessus la jambe. Hein. Il nourrit de la parole de Dieu. C'est ça les verts pâturages dont il est question. Une église où il n'y a plus la parole de Dieu, où il n'y a plus la prédication, on la délaisse au profit de d'autres activités, tout ça. Non, le principal, c'est la parole de Dieu qui est prêchée. Et ça, moi, je pense, mes frères et sœurs, dans les temps qui viennent, c'est ça ce qu'il faut exiger, demander. Parce qu'il a reçu un ministère particulier de prédication de la parole de Dieu. Il faut qu'il parle, ça c'est clair, c'est indispensable. Et c'est un modèle, alors les modèles, vous le retrouverez dans les épîtres pastorales, hein, comme Timothée 1, 2, et puis voilà, ça c'est le modèle. Donc c'est un ministère don, comme les autres d'ailleurs. Et c'est un ministère de proximité. Il est près du troupeau, il est près de la bergerie. Il ne s'est pas mis à des kilomètres et des kilomètres pour dire « je fais ça à distance hein. ». Bon, je sais que hein, on est maintenant le travail en distanciel, mais ce n'est pas ça hein, pour un ministère. Il est là, il est présent. Hein. Eh oui. Et puis, c'est un ministère d'aide et d'encouragement, naturellement d'accompagnement précisé. Alors, le docteur, on les met ensemble, parce qu'il peut y avoir quelques nuances. Le docteur, Diskalos, en grec, c'est un maître. Alors, chez les juifs, c'était le rabbi, naturellement, hein, le rabbi. Et que nous trouvons souvent, Jésus appelé de cette manière par ses concitoyens, c'est un professeur, c'est un pasteur, si vous voulez, mais il y a encore une nuance que vous allez comprendre. Et il enseigne avec une autorité que Dieu lui a donnée, que tout le monde ne n'a peut-être pas. Même le pasteur ou l'évangéliste, il a une autorité, il a quelque chose qui véritablement, on ressent tout de suite l'autorité du Saint-Esprit qui parle à travers lui, qui enseigne à travers lui. Naturellement, c'est les enseignements et c'est toujours le même rapport qui ramène à l'enseignement selon l'écriture inspirée par le Saint-Esprit. C'est pas lui, bon, il peut avoir des capacités à faire des beaux messages, etc., à dire des choses intéressantes. Non, on le sent. Il se découvre à travers des paroles de révélation, d'inspiration, etc. On ne va pas en parler aujourd'hui. On y reviendra peut-être, mais pour l'instant, ce n'est pas ça. Et la particularité du docteur, c'est qu'il va avoir cette capacité, cet approfondissement des réalités et des vérités spirituelles. Eh oui, il va dire des choses. Ah, j'y avais pas pensé. Ah, j'avais besoin de savoir ça. J'avais besoin de connaître ça. Ce sont des révélations, en quelque sorte. Et il va le faire d'une manière étonnante. C'est qu'il va avoir cette possibilité que Dieu lui a donnée, parce que c'est un ministère don, d'expliquer des choses difficiles et de les rendre simples à comprendre. Ça, c'est véritablement le docteur. Hein. Et c'est quelque chose de formidable. On a connu des docteurs. On a connu des évangélistes, on a connu des pasteurs, on a connu des apôtres et tout ça. C'est les ministères dons, on est bien d'accord. Ils ont été donnés. C'est pas une fantaisie en disant, bah tiens, moi j'appartiens à une église, ce serait bien que je puisse aller un petit peu parce que je sens. Bon, ça restera déterminé à avoir plus tard, hein, puisque après il faut qu'ils soient reconnus, qu'ils soient envoyés et puis qu'ils soient établis, hein, naturellement. Bon, on en est là aujourd'hui. C'est le don de savoir expliquer naturellement, simplement, ce qui est difficile à comprendre. C'est le développement de la croissance, ils amènent la stabilité et ils amènent l'équilibre à travers leur ministère. Alors je vous l'ai dit, donc, il y a des faux apôtres, il y a des faux docteurs, il y a des faux pasteurs, on peut le dire, voilà, tout simplement, et des faux prophètes. Dans les docteurs, il est cité deux noms, il y en a peut-être d'autres, mais enfin, en tous les cas, moi j'en ai appelé, c'est Zénas. Ça vous dit quelque chose, Zénas ? Oh, c'est un mot qu'on connaît, on le voit tous les jours, ça. Zénas, et alors l'autre, vous le connaissez, c'est Apollos. Ça, vous connaissez Apollos, hein, naturellement. Alors, c'est donc premier objectif de bien connaître, de bien identifier, de bien discerner ce qu'est un ministère don. 5. D'accord ? J'aimerais aujourd'hui, et j'aimerais aller un peu plus loin et parler des généralités de la personnalité et de la fonction. C'est important que vous sachiez à qui vous avez affaire. Vous connaissez le bon berger, maintenant vous avez besoin de connaître les bergers appelés par le bon berger pour continuer la tâche. Et ça fait 2000 ans que ça dure. Hein. On ne mélange pas tout. Hein. D'abord, en ce qui concerne la généralité, il est question de la nécessité de ces dons. Il est question de la gratuité de ces dons. Il est question de l'autorité de ces dons. Il est question de la pluralité de ces dons. Il est question de la complémentarité des ministères, de l'instrumentalité des ministères, de la finalité. Alors je dis en très rapide. Hein. La nécessité des ministères que Dieu a établis, les ministères dons, c'est pour révéler le Seigneur. Ça, c'est la nécessité. Ils ont été suscités par Dieu pour révéler le grand Dieu, le Dieu sauveur, le Dieu rédempteur, pour révéler aussi, en particulier dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ. La gratuité des ministères, on en reparlera tout à l'heure, qui sont des dons de grâce. Eh oui, des dons de la grâce, tout simplement. Et ne s'acquièrent pas à prix d'argent, comme le petit malin que nous voyons dans Actes chapitre 8, qui dit, ben écoutez, donnez-moi votre ce que vous avez, et puis moi je vais vous donner de l'argent. Ouh là là, il a passé un mauvais quart d'heure après. Eh oui, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement un ministère qui rentre dans le ministère pour se faire de l'argent. C'est un scandale. C'est une honte. Combien de frères ont été dans le ministère et qui ont vécu sans manquer de rien par la foi? Et Dieu les a toujours enrichis et bénis. Nous, c'est notre expérience. Moi, j'ai quitté 2 fois, 3 fois un travail séculier. Et à chaque fois qu'on a fait le bon, on avait toujours moins. Mais au bout d'un certain temps, Dieu nous a rendu tout ce que nous avions mis en avant. Eh oui. Et maintenant, naturellement, si je me propose à rentrer dans le ministère et je dis combien vous allez me payer, bon, C'est la marche par la foi, hein, pour les ministères, hein, faut pas s'illusion. Combien nous avons eu d'illustres pères dans nos églises, je peux vous dire que quand ils ont commencé, ils étaient dans un taudis. Hein. Ah oui, ils n'avaient rien. Et puis Dieu les a enrichis. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Vous ne manquerez jamais de rien quand vous êtes fidèle au Seigneur. Et si vous avez une mission à remplir, c'est lui qui va vous précéder. Il ne va pas marcher derrière vous. Hein. Il va vous ouvrir les portes. Ça, c'est la gratuité. L'autorité des ministères qui qualifie leur origine divine. Oui, parce que c'est Dieu qui fait les choses, ce n'est pas l'homme, quoi qu'il en soit. La pluralité des ministères dons, qui est la réponse de Dieu à la diversité des besoins des hommes et de son Église. Il y a une réponse à tout, aux besoins des hommes. Des chrétiens, Dieu a la solution et la réponse à toute chose. Alors vous n'allez pas vous inquiéter. Hein. Seigneur, comment je vais faire? Seigneur, est-ce que tu n'aurais pas besoin d'un petit conseil pour savoir ce que j'ai besoin? Mais il n'y a pas besoin. Il le sait déjà. Et il a donné des ministères d'une manière ou d'une autre pour répondre à tout cela. Hein. La complémentarité des ministères dons qui assure le développement des croyants individuellement et en Église. Eh oui, Dieu a cette vision pour chacun d'entre nous. Moi, j'ai beaucoup apprécié quand j'ai lu, par exemple, l'histoire de Nicodème. Jésus va s'arrêter pour un homme qui va devenir une leçon pour le monde entier pendant des siècles et encore aujourd'hui. Et puis après, il y a les épîtres qui arrivent. C'est pour telle église individuellement, mais c'est aussi pour l'église universelle. Eh oui, il y a l'instrumentalité des ministères dons qui révèle l'action de Dieu. Parce qu'il va se servir des hommes. Oui, le Seigneur, il est esprit, il est invisible. Mais néanmoins, il va mettre des hommes en place pour être ses serviteurs qui sont visibles. Et là, à ce moment-là, eh bien, Dieu va travailler avec les uns et les autres, mais toujours sous la coupe, finalement, du Saint-Esprit qui inspire. Et puis, il y a la finalité des ministères, c'est facile à comprendre, qui est la réalisation pleine et entière du plan de salut en amenant les sauvés jusqu'à la parfaite stature de Christ. On l'a lu tout à l'heure. Hein. Il est dit... jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, c'est ce qui nous guette, par leur ruse et les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, ça c'est la base essentielle, nous croîtrons à tous égards, une église qui ne se développe pas, enfin, je ne parle pas en nombre, mais je parle en qualité. Parce qu'on peut être dans une église où il y a 10 membres, mais s'il y a véritablement la vie de l'esprit, eh ben, c'est une église à part entière. Par contre, on peut avoir des méga-churches, puis finalement, il n'y a plus rien dans la coquille de l'escargot. Hein. Excusez-moi, hein, mais bon. À tous égards, en celui qui est le chef, le Christ. C'est de lui, grâce à tous les liens de son assistance dont nous venons de parler, que tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qu'il convient à chacune de ses parties et s'édifie dans l'amour. On revient toujours à la question. Hein. Dieu nous a sauvés par amour et il veut que nous puissions eh bien, grandir aussi dans l'amour pour que le monde entier puisse eh bien, là, avoir la révélation de Jésus-Christ, ce Dieu rédempteur qui est mort par amour pour le monde entier. Alors, je fais simplement un petit récapitulatif. La définition de tout cela, c'est que l'apôtre est l'envoyé missionnaire pionnier, si on peut dire les choses comme ça. Le prophète est inspiré. Inspiré, c'est celui qui parle de la part de Dieu, pour bien ministère de la parole. L'évangéliste apporte et prêche l'évangile dans son aspect précis, c'est-à-dire le salut par la grâce et son résultat attendu, la repentance et la foi en Jésus-Christ. Chacun a bien son... Le pasteur berger, dont la fonction est la prédication, l'enseignement, de rassembler, d'unir, de conduire et de rassurer. Avec naturellement, eh bien, toujours cet objectif dans l'amour. Le docteur est détenteur d'un certain savoir qui contribue à la connaissance et à la croissance de l'Église. Ça, c'est sa spécialité. L'objectif, en trois mots, enfin, simplement trois pensées. La gloire de Dieu. Le salut de l'homme et l'avènement du royaume de Dieu. L'avènement du royaume de Dieu. Je passe et j'en arrive à la formation du pasteur. Formation. La meilleure formation, c'est de pouvoir avoir un modèle, un père spirituel, comme nous en avons bénéficié, et que nous avons retenu certaines leçons, même si les personnalités sont différentes. Mais s'ils ont été fidèles, nos pères spirituels, en tous les cas, nous avons aussi. Il faut être fidèle. Et même si on exprime les choses d'une autre manière, ce n'est pas un problème. La formation du serviteur ministère don, c'est la théologie, la bonne connaissance, la doctrine, si vous voulez, sans tomber, finalement, dans tous les excès d'une dispensation ultra-légaliste. Parce que là, c'est la catastrophe. Je vous le rappelle, on vit dans le Nouveau Testament, on ne vit pas dans l'Ancien Testament, même s'il y a des choses extraordinaires dans l'Ancien Testament qui nous servent. Comme Jésus l'a utilisé lui-même en faisant des citations de... Voilà, vous le savez, la théologie, ça c'est important. Mais la théologie, qu'est-ce que la théologie s'il n'y a pas de pratique? Le pragmatisme, il faut apprendre. Parce que vous avez quelquefois des hommes qui sont bien appelés par Dieu, c'est certain. Mais alors dites donc, on ne touche pas. Moi, je me contente d'apporter la parole de Dieu, en bon fonctionnaire que je suis. Alors, quand il s'agit de traiter les problèmes de droite et de gauche, matériel, administratif, etc., etc., je n'y touche pas, ça me fatigue. Non. Comment voulez-vous que les jeunes, quand vous dites à l'église, eh bien, on vous demande tel service, on vous demande de faire ceci et cela, quand le pasteur ne montre pas l'exemple? Alors, on se dit, ben voilà, c'est bon. Surtout que quand même, quand vous êtes, vous, dans la vie, avec des familles, avec des responsabilités, et que... C'est bien que vous soyez dans l'église, c'est bien. Mais que quand vous voyez le pasteur qui, quelque part, excusez-moi, je ne veux pas critiquer, mais c'est la parole qui nous le dit. Si véritablement vous essuyez les mains en disant « moi j'y touche pas parce que ça ne me concerne pas », c'est aux autres de le faire, eh bien vous ne pourrez jamais avoir d'autorité et vous ne pourrez jamais pouvoir diriger les autres, quoi qu'il en soit. C'est ça justement le problème. Théologique, pratique, la discipline, et je ne dis pas la discipline pour les autres, mais la discipline pour le pasteur, Parce que bon, voilà, je crois que c'est bien de pouvoir parler comme ça, mais l'obéissance, discipline, obéissance, maître de soi, pasteur soupaulé, s'abstenir, parce que c'est un homme qui ne marche qu'avec ses émotions et ses sentiments. Non, il faut qu'il y ait quand même une âme qui soit affermie, là, cette affaire. Ah oui. Et puis, persévérant, je commence mais je finis pas. C'est ça la formation. Désintéressé, puisque nous avons parlé d'argent. Ouais. Moi, je n'ai pas encore mon avion personnel et puis mon hélicoptère. J'ai encore avec ma petite voiture. Et je suis content. Voilà. Mais dans le temps, les anciens, ils venaient en vélo. On a connu, Enfin, pour moi, mais... oui. Alors, ma femme avait la tentation de venir en vélo. C'est ce que j'ai fait. Là, pour Noël, j'ai payé un vélo d'appartement. Il n'y a pas de roue, comme ça. Alors, il y a des côtes pour venir à Saint-Nazaire. Bon, mais bon, voilà. C'est un petit clin d'œil que je fais. Le pasteur, dans sa formation, il faut que ce soit un homme joyeux. Ah ouais, c'est formidable. Alors, on ne va pas avoir une tête, là, glacée, sans expression. Mais non, c'est formidable. Un chrétien joyeux, il parle et il démontre ce qu'il est dans son âme. Et il est content, finalement. Et il rend les autres contents. Moi, je ne blague jamais. Bon, ça, vous n'avez pas de chance avec moi. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il doit y avoir une expression, parce que ça rassure dans une famille quand il y a de la joie, parce que les gens sont heureux. Ils sont heureux d'être ensemble, ils sont heureux de pouvoir louer le Seigneur. Dans l'Église, je veux dire. Et bien, c'est la joie d'être humble aussi. De ne pas mettre sur nos cartes de visite tout notre curriculum vitae en disant ça fait long comme ça. Vous savez, comme les anciens militaires de l'Union soviétique, il avait des médailles jusque sur les chaussures. L'humilité, parce que Jésus est humble. Le sens de l'humour, on a parlé de la joie, doux et un modèle. Voilà, doux et un modèle. Ça va encore là? Oui. Oui, il va falloir que je m'arrête. Je me fais rattraper. Les qualifications du pasteur, ministère don, si on parle de lui, c'est un homme de prière. Ouais. Il doit pouvoir finalement mener le combat dans la prière, et souvent les prières sont des prières de combat, hein, attention. Hein. C'est un homme de la parole, nous l'avons dit. C'est un homme qui est né et il est nourri de la parole. Il est porteur de la parole, il est communicateur, finalement, de ce qu'il sait. Ouais, communicateur, il y a quelque chose. Il y a la tchatche. Excusez-moi l'expression. Ah oui, il donne envie. Et les gens, quand ils sortent d'une réunion, eh ben, ils ne sont pas là. « Oh, j'ai bien dormi hein !» Non, on ne doit pas endormir les gens. Hein. La tâche du pasteur, alors elle est intéressante. Dans 2 Timothée, il est dit cette parole. Alors, est-ce que j'ai bien marqué la page? Parce que c'est pour... Alors, 2 Timothée, c'était 2 Timothée chapitre 2 et verset 15, il est dit ceci. C'est un jeune pasteur en formation, hein, c'est Timothée. « Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui les écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement de la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui ont les tiennes avanceront toujours de plus en plus de l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. » Voilà. Ça, c'est la tâche du pasteur de pouvoir faire et d'être bien, bien d'équerre, on peut dire, avec ce qu'il a dans sa mission, ce qu'il doit faire dans sa mission. L'équilibre maintenant, l'équilibre du pasteur entre les différents aspects, finalement, de sa personnalité au service. La difficulté du service, alors attention, parce qu'il y en a qui disent « c'est formidable de servir le Seigneur ». C'est vrai, mais attendez, il y a des choses qu'on ne sait pas avant d'avoir commencé. Et ça, on va les découvrir. Et ce n'est pas forcément marqué noir sur blanc, hein, écriture noire sur un tableau blanc. Hein. C'est après que l'on voit. Et là, on rentre dans toute la turpidité du monde dans lequel on est appelé à servir. Ce sont les souffrances qui s'y rattachent. Vous pourrez les trouver dans 2 Timothée, il y a les conseils qui sont donnés dans Hébreux également. Et les écueils maintenant que l'on peut rencontrer quand on est dans le ministère. C'est le fonctionnariat. Tranquille. Moi, j'attends la retraite. Oui. Bah, écoutez, on attend certainement la retraite. On n'en parle pas en ce moment, hein, de tellement de ces questions-là. Hein. Mais une chose qui est certaine, c'est que de toute façon, on ne sera jamais en retraite. Même si on l'est, effectivement. Hein, moi, c'est mon cas. Je le suis depuis près de 10 ans. Mais une chose qui est certaine, c'est que moi, je sais que ça ira jusqu'au bout. Hein. Parce qu'il y aura toujours quelque chose à faire d'une manière ou d'une autre. Moi, je n'ai pas envie de refaire ce que j'ai fait pendant 40 ans. Mais ça sera différent. Et si on le demande au Seigneur, eh bien, il va varier finalement eh bien, nos perspectives et notre vision de notre âge. Nous, nous sommes à l'automne. On ne va pas recommencer ce qu'on a fait au printemps, ni même en été. On est à l'automne. Alors, autant que le Seigneur nous donne la santé, même s'il y a des accros quelquefois sérieux, ben, on est toujours là. C'est de comprendre qu'il peut y avoir des incompréhensions entre le ministère dont le pasteur, par exemple, c'est le terme générique, les incompréhensions des chrétiens. Ah ben oui, je ne comprends pas, etc. Pourquoi ceci, pourquoi cela, et bien on sera confronté à l'incompréhension. Et quelquefois, ça peut faire mal, hein, c'est humiliant. Parce que quelquefois, c'est vrai, ils n'ont pas tort de le dire, mais quelquefois, c'est complètement faux. Parce que c'est la vie personnelle, hein, quelque part. C'est l'isolement. Moi, je m'isole pour être tranquille, pour pas qu'on vienne me déranger. Ça peut être ça. Surtout que c'est quand même une tâche où on est quand même libre par rapport à une profession. Hein, où on est avec des horaires et tout ça. C'est l'habitude et l'accoutumance. On ne bouge pas, on reste comme ça, on reste statique. C'est le piège de la popularité quand ça marche. Quand on dit, ben, bravo, hein, c'est quand même le meilleur. Hein. Il est formidable. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Hein. Pas de problème. Et là, il faut faire attention. C'est la fausse sainteté. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Tout ça, passer pour ce qu'on n'est pas, quelque part. Eh ben, on est comme le reste des hommes, les pasteurs. On a on fait des erreurs, on a des défauts, on a toutes sortes de choses. C'est l'amour-propre et l'orgueil. Ah ouais, j'ai été blessé, mais combien de fois on peut être blessé? Combien de fois nous avons été blessés? Et même par des très proches, même dans la famille. Je peux vous dire que c'est peut-être là où justement, nul n'est prophète dans sa propre patrie. Hein. Quelquefois on a été fusillé, hein. Mais on est toujours vivant, alors donc c'est ce qui compte. C'est quelquefois les titres et la fonction qui enorgueillisse finalement le serviteur de Dieu. Moi, j'ai un titre, j'ai une fonction. Mais qu'est-ce que l'on est ? On n'est rien devant Dieu. Lorsque vous aurez fait tout ce que Dieu vous a demandé, vous êtes encore des serviteurs inutiles. C'est ce que Paul disait. L'amour propre, l'orgueil, on en a parlé. L'autoritarisme, je suis le patron. Attention, tout le monde aligné comme dans un régiment. Eh oui, parce que peut-être ce ministère-là, il a pensé qu'il était le seul. C'est tout, il n'y avait pas d'autre. Le besoin de paraître, de dire, regardez-moi, vous savez, c'est la médiocrité. Quelquefois, c'est l'inverse de ce que nous on dit. On dit, il manque quelque chose. Ouais. On est venu pour réveiller les âmes. On est venu pour les amener à naître de nouveau. On est venu pour nourrir le troupeau, pour qu'il soit vaillant, ce troupeau. Pour qu'il soit pétillant, pétulant, si vous voulez. Mais on n'est pas venu pour l'anesthésier. Puis la peur des autres. Que dira mon collègue ? T'as fait combien de baptêmes ? J'en ai pas fait cette année. Mais c'est pas pour ça qu'il n'est pas un pasteur, parce qu'il a fait. Voilà. Paul dira, moi je suis pas venu pour faire des baptêmes. Il en a fait. Alors, moi j'en ai fait 25. Alors qu'est-ce que tu fiches toi ? Tu fais rien du tout ? Attention à nos jugements, parce que ça fait mal. Et je termine par la joie du service. Le contentement et le désintéressement. Oui, c'est pas mal ça. Je suis content. Content. Soyez toujours content. Et on n'est pas toujours content. Eh oui, le contentement et le désintéressement. Et le vrai salaire, c'est Dieu qui va nous le donner, tout simplement. Le vrai salaire, c'est Dieu qui va nous donner tout cela. Que le Seigneur nous donne sa grâce, mes frères et sœurs. Moi, je voudrais vous dire qu'on est là pour vous servir. Qu'on est là pour se servir les uns et les autres. Que nous puissions finalement vivre quelque chose de dynamique. Ah oui, quand on voit que tout va de digue-digue, et autour de nous, moi je dis que l'Église, elle doit, dans ces temps difficiles, comme dans la première période de l'Évangile, il y a 2000 ans, je peux vous dire qu'ils s'enquiquinaient pas avec toutes sortes de choses qui leur tombaient sur la tête. Au contraire. Alors que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous donne véritablement d'avoir une bonne vision. Je ne peux pas aller plus loin parce que j'avais préparé encore autre chose. Ce n'était pas les ministères dons, c'était les ministères d'assistance, tels que les frères anciens, tels que l'évêque et tels que les diacres. Alors, ne m'appelez pas Monseigneur l'évêque. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse, mes frères et sœurs. On va simplement remercier le Seigneur et puis on va laisser Jean continuer. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta bonté et ta fidélité. Seigneur, notre adoration ce matin, elle va vers le bon berger, celui qui est l'apôtre par excellence, le prophète qui nous a annoncé les temps à venir et les temps d'aujourd'hui. Tu nous as donné l'exemple que Jésus, à travers la mission d'évangélisation, il a rassemblé des hommes. Et puis il y a également le pasteur, le berger, et il y a le docteur qui enseigne. Tout ça, c'est Jésus par excellence. Et nous te remercions. Et tu as répondu dans le monde entier des hommes qui ont été appelés, qui ont été établis, qui ont été reconnus. Ce sont les ministères dons. Alors c'est vrai que nous sommes et nous restons des hommes. Mais une chose, c'est que notre vision, notre compréhension, notre appel, en effet, doit être calqué et dans l'imitation à la ressemblance de Jésus et de Jésus seul. Tu bénis mes frères et sœurs en Église. Tu les bénis, Seigneur. Et tu leur donnes véritablement de le faire avec cette paix, cette joie, ce bonheur d'être enfant de Dieu, fils ou fille de Dieu. Merci Jésus. Amen.
Amen.